France Inter, le 18-20.
Il y a un mois, jour pour jour, Nicolas Hulot annonçait sa démission ici, sur France Inter. Le ministre de la Transition écologique faisait part de son impuissance à inverser la tendance face à l'enjeu prioritaire que constitue la préservation de l'environnement. Il regrettait qu'on s'évertue à entretenir un modèle économique cause de tous les désordres et il posait la question suivante. Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Quelques jours plus tard, 100 000 personnes descendaient dans la rue à l'occasion de la Journée mondiale du climat, ce qui est inédit en France. Il y a eu également plusieurs appels pour la planète de la part de scientifiques, d'artistes, de citoyens. Mais pour le reste, rien ou presque. Et cette semaine, Emmanuel Macron a donc été sacré au siège des Nations Unies à New York, champion du monde de la Terre. Alors me direz-vous, que faire pour éviter la catastrophe annoncée par tous les climatologues? Que faire à notre échelle, à nous, simples citoyens? Cyril Dion, qui a apporté des réponses à ces questions à travers son film Demain, est avec nous pour en parler. Rebonsoir Cyril Dion.
Bonsoir.
Avec nous également Isabelle Delannoy, qui elle a travaillé sur le film Home de Yann Arthus Bertrand. Bonsoir à vous Isabelle Delannoy.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes ingénieure agronome, auteur chez Actes Sud d'un ouvrage intitulé L'économie symbiotique ou comment régénérer la planète, l'économie et la société. Vaste programme, vous nous direz comment il faut faire. Alors si vous aussi à votre échelle vous tentez de lutter contre le réchauffement climatique pour un autre modèle de société, appelez-nous au 01 45 24 7000. En tout cas, vous êtes déjà très très nombreux.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Embouteillage donc ce soir au standard du téléphone sonne et c'est tant mieux, ça prouve que les choses bougent. Un premier appel à présent, celui d'Inès. Bonsoir à vous Inès.
Bonsoir.
De quelle région appelez-vous? Parce que j'ai pas la ville, j'ai pas l'endroit en tout cas.
J'appelle de Montreuil.
De Montreuil, dans la région parisienne. Pour quelle raison appelez-vous Inès?
Alors je suis ravie d'avoir Cyril Dion au bout du fil. Je voulais dire que deux films ont changé ma vie et celle de mon mari, c'est Demain et The True Cost. On faisait déjà quelques gestes écolos avant de voir Demain. Mais après avoir vu ces deux films, nous avons eu un électrochoc et on a changé énormément de choses dans nos vies. On est devenu vegan, on a changé de fournisseur d'électricité, on a adopté un mode de vie zéro déchet. Et pourtant, j'ai très souvent l'impression de faire partie d'une toute petite minorité et d'être une petite goutte d'eau. Je vais donner un tout petit exemple. Quand je dis aux gens qu'on utilise des mouchoirs en tissu, un peu comme ma grand-mère, j'ai souvent des réactions complètement horrifiées à l'idée de mettre son mouchoir dans une machine à laver. Voilà. Donc, c'est parfois un peu déprimant et j'ai besoin d'un petit boost de Cyril Dion pour continuer.
Merci beaucoup Inès pour cet appel, Cyril Dion.
C'est une grosse responsabilité. Bonjour Inès et merci beaucoup pour cet appel et je suis hyper heureux que Demain vous ait donné de l'énergie. Pour moi, ça m'évoque deux réactions. La première, c'est que je pense que ça commence par nous. C'est-à-dire que on dit toujours... finalement, changer dans sa vie, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais c'est quand même fondamental parce que c'est le ferment, pour moi, d'un changement de culture. L'idée, c'est qu'on change de culture. Que dans 20 ans, on se dise, justement, cette bouteille d'eau, imaginez-vous, il y a 20 ans, les gens, ils utilisaient du pétrole, beaucoup d'énergie pour faire une bouteille, qu'ils utilisaient 5 minutes, et hop, après, ils l'achetaient. Et après, ça devenait un déchet, puis ça finissait dans la mer, et puis les oiseaux mouraient parce qu'ils ingéraient du plastique, ils étaient complètement fous. Ça voudra dire que notre conception du monde, notre représentation du monde se sera transformée. Et chacun d'entre nous, quand on se met à changer de vie comme ça, Inès le raconte avec son histoire de mouchoir, mais c'est vrai aussi avec le fait de plus manger de viande, on crée une conversation. Et cette conversation-là participe à transformer la culture. Ensuite, on voit qu'effectivement, c'est pas suffisant et que cette transformation culturelle, elle a besoin de s'incarner dans des mesures politiques, dans des mesures économiques. Ça va être hyper long de dire à tout le monde « Bon, arrêtez de prendre des bouteilles en plastique, arrêtez de prendre des pailles », alors que si demain, il y a une loi qui dit « C'est interdit d'avoir des objets en plastique à usage unique », on voit que ça va se transformer très rapidement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Bombay, là, ça vient d'être mis en route. Donc pour ça, on a vraiment besoin que toutes les personnes qui pensent ça, qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on imagine, se retrouvent, s'unissent, c'est pour ça que je casse les pieds à tout le monde avec mon lobby citoyen depuis quelques jours, pour que le gouvernement, mais aussi les médias, mais aussi globalement l'ensemble des Français, entendent qu'on est plein à avoir envie, et pas simplement avoir envie, à être persuadé qu'on a besoin de transformer la société aujourd'hui sur plein d'aspects.
Je crois que sur le lobby, vous avez été entendu aussi, et on a des gens qui nous appellent, on va y revenir, Cyril Dion. Mais Isabelle Delannoy, je voudrais revenir sur ce que disait Inès. Elle disait « j'ai l'impression d'être une petite goutte d'eau ». Mais une petite goutte d'eau plus une petite goutte d'eau, c'est important ?
Mais c'est non seulement important, mais en réalité, on est des millions. Et on est des millions, mais ce qui fait miroir social d'une population, c'est les médias et le politique. Et tant que les médias et le politique ne renvoient pas cette image-là, les gens se croient seuls et ne voient pas qu'ils font masse. Et les études sociologiques, les études même sur la mythologie dominante des populations, montrent qu'on a radicalement changé et que ce mythe technophile, tout par la technique, l'homme possesseur et maître de tout, a disparu, est devenu minoritaire par rapport en fait à nous faisons partie de la Terre et en réalité la Terre est la dernière décideuse de nos vies. Et ça s'est déjà fait depuis plusieurs années. Donc d'où l'importance des missions comme celle-ci, d'où l'importance en effet du politique qui prend acte et qui devient structurant parce que les citoyens seuls, c'est magnifique, mais c'est trop faible et c'est une énergie folle. Et on a besoin du politique, notamment local, parce que ça se produit à l'échelle locale, cette nouvelle économie, pour structurer.
On va poursuivre la réflexion sur le politique, mais on va quand même se faire du bien avant tout ce soir en entendant ceux qui se sont pris en main et qui ont décidé de changer les choses. Claire en fait partie. Elle est en ligne avec nous. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir Cyril, bonsoir à Emmanuel. On se connaît un petit peu, hein, je suis Claire de Ferme d'Avenir. Je voulais pas forcément parler de ce qu'on fait pour installer des fermes agroécologiques ce soir. Je voulais plus parler de comment j'essaye de développer de la résilience locale dans mon village de 700 habitants, un très beau village. Donc j'aménage mon lieu de 1 hectare selon les principes de la permaculture et je transforme aussi mon mode de vie. Donc voilà, très rapidement, quasiment zéro déchet, production d'une partie de mon alimentation, plantation d'arbres, créer des activités culturelles. Je suis évidemment d'accord avec Cyril, dans mon village pour déjà relocaliser ces activités et puis qu'on réapprenne à vivre ensemble. Déplacement surtout en vélo, l'avion est supprimé depuis longtemps, quasiment plus de déplacements en voiture et pourtant je suis bien intégrée dans la société. Et ce que je voulais dire, et puis ça débouchera un peu sur une question, c'est que vivre la transition au quotidien, je trouve que c'est un moyen formidable d'inspirer les gens et en fait plus que de leur dire, de leur amener à vivre cette expérience auprès de nous, chez nous. Moi je vois qu'ils se transforment et surtout qu'ils voient que ce mode de vie est heureux. Et je me dis, voilà, si les décideurs, un petit peu dont on parle, les politiques quand même, et on a besoin aussi qu'ils nous aident là-dedans, ils font ce qu'ils prônent et qu'ils le montrent. Alors ouais, ils montrent qu'ils sont dans une maison qu'ils ont rénovée thermiquement, ils montrent qu'ils prennent le vélo. Moi, je pense qu'ils auront beaucoup plus de pouvoir d'embarquer tout le monde aussi et que les lois, elles seront aussi plus faciles à faire passer parce qu'ils auront incarné ce qu'ils prônent. Voilà, en tout cas, merci pour votre émission.
Ah bah merci Claire, merci de nous avoir appelé, Cyril Dion.
Bah, formidable, bravo.
Vous avez tout un fan club hein, là ce soir au standard du téléphone. Votre ego va en prendre un petit coup, mais bon, c'est pour la bonne cause.
Mais après, je vais rentrer chez moi. Mes enfants vont me calmer, vous inquiétez pas. Non, mais elle a raison sur les élus. On avait cette conversation là et dans Après-demain là, le film que j'ai fait avec Laure Noy là, qui va passer sur France 2 à la fin de l'année. Donc après demain, dans une soirée spéciale demain, on est allé voir le maire de Grenoble qui nous disait ça. Et en fait, il est arrivé en vélo.
Éric Piolle, hein, il est toujours
exactement.
À vélo.
Exactement. Et donc on se connaît un peu, donc je lui dis tu te déplaces en vélo. Il me dit bah oui, parce que tu comprends bien que si je me déplace en voiture avec deux sbires derrière moi qui portent ma mallette, mon manteau, et que je descends comme ça d'une voiture au vide teinté pour dire aux gens bon, dites donc, la mobilité, vous faites attention, faut pas prendre la voiture, ils vont se dire il est bizarre quand même ce garçon. Donc effectivement, les élus ont besoin de commencer par faire ce qu'ils prônent, faire ce qu'ils demandent à leurs électeurs, c'est certain.
Isabelle Delannoy, oui, allez-y.
Et je crois aussi que de montrer, en fait, c'est un changement visuel total. C'est pas tellement un changement au niveau de la consommation, oui, le zéro déchet, etc. Mais ce qui est dur dans le zéro déchet, c'est que le système n'est pas adapté à faire zéro déchet. C'est ça qui est difficile. Sinon, chez soi, c'est génial. C'est un autre art de vivre. C'est beau. Tout à coup, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de publicité chez vous. Toutes les marques de shampoing, de farine, de pâte, tout ça, ça a disparu. Et il y a un choc vraiment visuel. C'est-à-dire que c'est pas une utopie. dans le sens du lieu qui n'existe pas encore. C'est des lieux qui existent déjà. On pourrait parler, je sais pas, de transtopie. Et qui, lorsque vous y arrivez, l'ambiance est différente, l'esthétique est différente, le lien social est différent. Et vivre cela, ça nous fait comprendre ce changement qui est profond. Parce que tant qu'on le regarde avec la logique existante, on ne le comprend pas. Il faut rentrer dans cette nouvelle logique et il faut la vivre, en fait. En faire l'expérience sensible pour la comprendre. Donc, en effet, faire ces lieux de démonstration, emmener les élus, les chefs d'entreprise, tous les décideurs, et décideurs aussi de foyers, les citoyens, dans ces lieux-là, ça, c'est très important.
D'ailleurs, dans votre livre, Isabelle Delannoy, il y a des exemples, et c'est très rassurant, et c'est très enrichissant, c'est très beau de voir que ça existe. Moi, je prends, alors c'est pas chez nous, mais la ville de Portland aux États-Unis, vous citez ce cas, vous dites que c'est la ville la plus dense des États-Unis, et en même temps, celle où les habitants ont le plus d'espaces verts et de produits alimentaires locaux.
Oui,
et ça, c'est aux États-Unis, oui. Le pays où on gâche quand même pas mal. Et on se dit, ben, chapeau, quoi.
C'est très intéressant, la ville de Portland, en mettant deux grandes politiques, le plus possible de services accessibles directement à pied, commerce, administration, mobilité, et de reconnecter la ville au vivant, tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes d'inondation, ils avaient plus d'argent. Donc, ils ont fait une technique qui s'appelle les jardins de pluie à la place des égouts, et ça vous met du vert dans la ville, et ils l'ont scénarisé. Eh bien, aujourd'hui, Ça a produit une dynamique comme ça, qui est pas mécanique, hein. Vous pouvez pas prévoir les résultats de A donne B, etc. Non, c'est A plus B plus C, ça va donner autre chose. Et ce autre chose, c'est par exemple 30% de carburant en moins consommé par les habitants sans aucune mesure contraignante. C'est de changer l'environnement et de passer à d'autres logiques qui a provoqué cette adoption d'une mobilité plus douce. Et puis, il y a un tas de choses, du made in Portland, donc c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour l'emploi local. Il y avait un marché dans les années 90, il y en a 20 aujourd'hui, plus de producteurs locaux, c'est la ville la plus végétarienne des États-Unis aujourd'hui. Donc c'est ce changement qui permet des effets démultiplicateurs qu'on n'imagine pas.
On repart au standard de France Inter. Elsa est en ligne à son tour. Bonsoir Elsa. Vous êtes là ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonsoir, merci à vous de m'écouter. Bonsoir Cyril Dion, bonsoir Isabelle Delannoy.
Bonsoir.
Moi je souhaitais réagir à l'appel que vous avez lancé suite à la démission de Nicolas Hulot et surtout de la Marche pour le Climat. Vous appeliez à constituer un lobby citoyen. Et cet appel m'a personnellement beaucoup touchée parce qu'en fait, il en existe. Il existe notamment celui dont je fais partie qui s'appelle lobby-citoyen.fr qui a débuté en début d'année. Et qui a contribué à proposer des amendements sur la loi agriculture et alimentation et aussi sur la réforme constitutionnelle. L'idée de ce lobby citoyen, c'est au-delà d'une pétition qu'on va signer, qui est déjà un acte énorme parce que derrière les pétitions, il y a des gens qui font ces pétitions et qui ont besoin de les faire vivre. Donc, au-delà des pétitions, amener les citoyens à contacter leurs députés, contacter leurs sénateurs, contacter leurs élus, parce qu'ils sont là pour les écouter, et finalement mettre au service des citoyens les outils du lobbying, ce mot qui fait assez peur, mais qui en fait est tout à fait abordable quand on a des idées à défendre. Il faut vraiment pas hésiter à contacter nos élus. Donc l'idée avec Lobby Citoyen, c'est de mobiliser, d'informer les gens qui ont envie de s'engager pour aller plus loin. Donc voilà, enfin, moi je fais partie de cette dynamique, de ce collectif, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous en avez déjà rencontré, quels seraient vos conseils pour éventuellement dynamiser la démarche, parce que si vous lancez un appel, c'est que vous pensez que ça va peut-être pas encore assez loin.
Alors comment vous allez faire, Cyril Dion ? Elsa, déjà là, un premier pas.
Moi je vais pas tout faire, mais ce que je voulais, je trouve ça super que ça existe. Bravo de faire ça et c'est formidable que ça existe déjà. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de créer de la coordination de l'organisation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a des millions de personnes qui pensent déjà un certain nombre de choses, quand on faisait des études d'opinion sur le glyphosate, on avait entre 80 et 90% des personnes qui étaient interrogées qui disaient « bah oui, nous, on pense qu'il faudrait sortir du glyphosate ». Malheureusement, comme ces personnes-là sont pas organisées, c'est une sorte de chose un peu diffuse, les personnes qui, elles, sont très organisées, qui sont ou dans les lobbies de l'agroalimentaire ou au gouvernement, disent on va pas le mettre dans la loi, et oui, on va le faire, mais on le met pas dans la loi. À ce moment-là, il me semble que c'est important de créer une petite organisation, donc peut-être que c'est celle-là, qui existe déjà et c'est super, qui participe à mobiliser les différents fichiers, par exemple, des grandes ONG. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans le fichier de Greenpeace, du WWF, de la Fondation Nicolas Hulot, d'Emmaüs, d'Oxfam. Et qu'à un moment, tout le monde se concentre sur un objectif précis. Un peu ce qu'a fait l'ONG Bloom, qui travaille sur les océans, et qui a réussi à interdire la pêche en eau profonde. Ils se sont pas dit, on va sauver les océans. Ils se sont dit, on va interdire la pêche en eau profonde parce que ça nous semble être un objectif stratégique très fort qui va avoir un gros impact. Moi, il me semble qu'il faudrait se donner un certain nombre d'objectifs comme ça, atteignables, et hiérarchiser une stratégie. Et se dire, on se met tous ensemble sur le premier objectif, idéalement celui qui est le plus facile à atteindre. On y arrive, génial. Tous les gens qui se sont mobilisés gagnent beaucoup d'énergie parce qu'ils disent, bah voilà, ça y est, quand on se met ensemble, on y arrive. Et du coup, on a de l'énergie pour un deuxième objectif, puis un troisième, puis un quatrième. Et que dans le temps, on crée un mouvement qui a vraiment une action politique, profondément politique.
C'est ce que j'allais vous dire, pardon. C'est quand même aussi le rôle du politique de s'occuper de ça. Et puis d'ailleurs, il y a des partis politiques qui ont un programme qui ressemble exactement à ce que vous êtes en train d'énumérer. Hein.
Mais parce que aujourd'hui,
les Verts, c'est
ce qu'on se disait dans la première heure. On n'a pas les mécanismes institutionnels pour ça. C'est-à-dire que si on était, par exemple, comme en Suisse, et qu'on avait la capacité de créer des référendums d'initiative populaire, ben, il n'y aurait pas besoin de faire ce que je dis. On pourrait le faire grâce à nos institutions. Mais aujourd'hui, en France, si les responsables politiques que vous avez élus ne font pas ce qu'ils ont promis, ou alors mènent des politiques qui vont au à l'inverse de ce qu'une partie de la population voudrait faire, c'est quoi la solution?
Il faut que vous présentiez aux élections à ce moment-là.
Mais non, c'est trop facile ça.
Non.
Mais ça, c'est Michelle Obama qui disait ça il y a peu de temps, qui était interrogée sur est-ce que vous allez vous présenter la prochaine fois, etc. Elle disait, mais que ça soit moi qui me présente ou un autre, pour l'instant, ça servirait pas à grand-chose parce que le mouvement n'existe pas. Elle disait, ce qu'on a échoué dans le Yes Weekend, c'est le oui. C'est le ensemble. C'est de créer un mouvement qui participe à transformer la culture de notre pays, qui participe à porter comme ça des nouvelles idées. Et si le mouvement n'existe pas, en fait, vous pouvez vous faire élire comme vous voulez, vous allez vous retrouver comme Nicolas Hulot. C'est-à-dire tout seul. Donc, c'est pas une question de personne. Il faut qu'on arrête d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver. C'est une question de créer un mouvement.
Isabelle Delannoy, vous disiez tout à l'heure, il faudrait que ça commence par l'échelon local.
Oui, par exemple, il y a eu des modifications de loi sur les rivières qui rendent simplement une définition du cours d'eau et qui rendent les rivières beaucoup plus, les rivières, les ruisseaux qui sont bas de chez nous, beaucoup plus sensibles à la contamination par les pesticides, aux rejets pesticides, engrais ou tout autre polluant, parce que tout simplement, elles deviennent hors du contrôle légal. Et bien ça, c'est quelque chose où on doit pouvoir, comme on le fait à Paris, on se mobilise sur les berges de Seine. Il est très important de se mobiliser localement aussi pour la sauvegarde de certaines choses indispensables comme les rivières. Aujourd'hui, on a besoin de chaque mètre carré de biodiversité pour face au changement climatique, face à l'érosion de la biodiversité et aussi ce que l'on souhaite mettre en place. On a des coopératives d'énergie citoyenne. Plutôt que de subir des arrivées d'éoliennes, de panneaux solaires où c'est uniquement contrôlé par des groupes qui ne font que louer par exemple des espaces à des agriculteurs, montons ces structures d'énergie renouvelable ensemble. Allons voir les élus pour dire on veut un fonds d'innovation citoyenne sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il est possible d'avoir des industries de voitures, de téléphones, d'électroménager, de textiles locaux qui redonnent des emplois et qui, vous savez d'où ça vient. Et de façon éthique et de façon écologique, eh bien, c'est ces lobbies-là aussi au niveau local que pour un jardin partagé, pour des jardins de pluie, tout simplement pour des fontaines. Cet été, on pouvait remplir sa gourde nulle part, alors qu'on crevait de chaud. On disait buvez, 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 on pouvait remplir la gourde nulle part et on était obligé d'acheter des bouteilles plastiques. Eh bien, ça, c'est des choses extrêmement fortes, extrêmement concrètes et qui peuvent avoir un impact important. La mairie de Paris, qui a repris sa régie municipale de l'eau, hein, qui est maintenant en régie municipale, a augmenté de 7 fois les surfaces d'agriculture biologique sur ces zones de captage. Voilà, c'est plus de produits biologiques pour la population, et on en manque. Et c'est aussi en général 30% de la biodiversité en plus, et c'est préserver les eaux. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est donc, ce genre de choses qu'il faut
faire. Sur ce sujet-là, par exemple, vous pouvez investir une partie de votre épargne chez Énergie Partagée, qui construit des projets collectifs et citoyens d'énergie renouvelable sur les territoires, ou plus simplement aller chez Enercoop, par exemple, changer de fournisseur d'électricité, qui est un fournisseur, qui est une coopérative citoyenne, 100% d'électricité renouvelable. Greenpeace a fait un classement ce matin.
Son étude aujourd'hui, voilà. Et voilà. Il y a trois entreprises.
Et Enercoop fait partie des trois premiers.
On est d'accord. On va prendre cette fois Cédric en ligne. Il est conseiller municipal. Bonsoir Cédric.
Oui, bonsoir.
À quel endroit êtes-vous conseiller municipal?
Alors, je suis conseiller municipal de la petite commune de Le Pouget dans l'Hérault. C'est à peu près équidistant entre Montpellier et Béziers. C'est une commune qui se trouve au cœur du pays cœur d'Hérault, donc qui est composée de trois communautés de communes. Et on a effectivement un site environnemental, géologique, patrimonial vraiment d'excellence, et avec beaucoup de vignes. Et le problème du réchauffement climatique, et ben on le ressent ici aussi fortement. J'en alerte mes collègues du conseil municipal, mais on est dans une situation qui, je pense, est commune à beaucoup de petites communes de moins de 2500 habitants, qui représentent quand même la majorité, où toute action est absolument interdite. Voilà, c'est-à-dire que en gros, on n'a pas de débat en commission. On aborde les problématiques, mais comme ça, entre deux dossiers, on va dire. Il se passe rien, il n'y a pas d'action. Les gens que j'essaie de sensibiliser au travers de l'association que j'ai créée il y a 20 ans maintenant aussi pour sensibiliser aux pratiques artistiques, culturelles, environnementales, citoyennes, ça marche pas. Les gens sont pris par leur quotidien. On est dans des zones qui sont au bord de la paupérisation puisque les loyers sont moins chers. Donc pour faire redonner un peu de pouvoir d'achat aux plus précaires des grandes villes, on les renvoie en milieu rural. Ils sont éloignés de tout. Et du coup, ben, les préoccupations, elles sont ailleurs, quoi. Elles sont ailleurs que sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. C'est d'abord chercher de quoi manger. Et quand on aborde la possibilité de faire de l'économie sociale et solidaire, du développement durable, du commerce équitable, en privilégiant le local, sur les circuits locaux, la production locale, on est plein de richesses. On a le tourisme qui est un facteur très très important au niveau économique, qui est pour le label Sud de France, mais c'est tout. Après, il se passe rien. Et d'amener de la sensibilisation, quand on voit l'état du tri des déchets chez nous, c'est une calamité, ça nous coûte une fortune tous les ans, parce qu'il n'est pas bien fait. Et il n'y a rien qui est entrepris, parce que tout coûte de l'argent, il paraît, et que mener une action de sensibilisation, ça coûte de l'argent, et comme les dotations de l'État ont réduit, on ne peut plus faire ce genre de choses.
Cédric, on vous sent un peu désespéré, on va essayer de vous remonter le moral et voir s'il y a quelque chose à faire. Cyril Dion, il pose une vraie question, Cédric, les priorités sont ailleurs, notamment pour ceux qui sont les plus pauvres dans notre société.
Ben, évidemment que c'est une vraie question. Après, en fait, ce qu'on voit pas toujours, c'est que toutes ces questions-là se rejoignent. C'est-à-dire que très souvent, il y a des populations qui s'appauvrissent à cause du modèle économique qui crée énormément d'inégalités, et que ce modèle économique est aussi celui qui est en train de dérégler le climat et de faire disparaître les espèces. Donc en réalité, la réponse est à peu près la même dans ce qu'il faudrait apporter. Après, sur la capacité à mobiliser des gens, en disant finalement le changement climatique c'est pas la priorité, dans le petit manuel de résistance contemporaine, là je parle de stratégies, notamment celle élaborée par un Serbe qui s'appelle Zdra Popovic, qui était un des leaders de la révolution qui a chassé Milosevic dans les années 2000. Et lui, il dit, une erreur que font très souvent les activistes, c'est de commencer par essayer de mobiliser les gens sur des grandes idées. Donc les droits de l'homme, les changements climatiques, etc. Alors que pour lui, il faut commencer par mobiliser les gens sur un sujet qui concerne tout le monde, qui permet déjà de se rassembler. Et un exemple de ça, c'était en Angleterre, les villes en transition, donc dont on parle dans Demain, qui sont basées sur l'idée qu'il faut faire quelque chose par rapport au changement climatique et au pic pétrolier, que c'est une grosse problématique. Ils n'arrivaient pas à mobiliser les gens. Parce qu'effectivement, si vous allez dans un village en Angleterre et que vous dites « changement climatique » comme ça sur la place du village, vous n'avez pas tout le monde qui a envie de rappliquer pour faire des choses avec vous. Donc ils se sont dit « c'est quoi le truc qui nous rassemble en fait ? Le truc qui nous est tous commun ?» Et ils se sont dit « comme on est des Anglais, c'est peut-être la bière ». Et donc ils ont lancé un projet de micro-brasserie. Et là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont
ça a parlé, quoi.
Qui sont pointés parce qu'ils se sont dit, ben nous, ça nous intéresse d'avoir une super bonne bière locale. Et ils ont profité de ça pour créer une conversation en disant, ben c'est super d'avoir une bonne bière locale, mais finalement, on a aussi besoin de relocaliser une partie de notre alimentation parce que l'alimentation fait des milliers de kilomètres, ça émet des gaz à effet de serre, et c'est vrai aussi pour un tas d'activités économiques. Et en fait, ils ont pu créer le groupe et lancer cette initiative parce qu'ils ont commencé par quelque chose qui concernait tout le monde et qui intéressait tout le monde.
Isabelle Delannoy, c'est tous ces projets, comment effectivement faire comprendre aussi aux laissés-pour-compte qui sont concernés, que ce n'est pas uniquement un truc pour ceux qui ont déjà résolu les problèmes de vie quotidienne.
Là, déjà, un des grands facteurs qui soude, c'est l'identité de son territoire. D'avoir envie de ce que tu disais, nous on est les Anglais, peut-être que c'est la bière. Et ça c'est très important. On fait partie d'un territoire et en fait, même si on arrive de l'extérieur, on prend en fait l'identité. C'est très l'esprit d'une ville, l'esprit d'un territoire, l'esprit. Monsieur a tout de suite parlé de son environnement et de la caractéristique de là où il habite. Ça c'est vraiment important. Et ensuite c'est sur des choses très concrètes. Et souvent les choses très concrètes sont celles qui coûtent pas cher, parce que lorsque vous créez un jardin, ça peut être compliqué en organisation, etc. Mais un jardin partagé pour de la nourriture commune, etc. Pour réapprendre à manger, réapprendre à cultiver, comprendre aussi peut-être parfois des bases nutritionnelles. C'est absolument c'est enthousiasmant, parce que quand on plante des pommes, des carottes, des roses, ça donne lieu à un tas d'effets culinaires, d'effets de santé, d'effets même de beauté. On peut utiliser la rose, la pomme, etc. pour un tas de recettes cosmétiques, de soins. Et tout le monde peut y trouver son compte et c'est la fête. Et en fait, il faut créer cette cristallisation et après, on peut passer à autre chose.
On va prendre Claire-Élise qui nous appelle et qui attend depuis un petit moment au standard du téléphone sonne. Bonsoir Claire-Élise.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, dites-nous tout.
Alors, en fait, nous, avec mon conjoint, il y a 2 ans, quand notre deuxième enfant est né, on a eu un déclic parce qu'on a l'habitude de manger correctement et on s'est rendu compte qu'avec un deuxième, on avait des grosses dépenses. Et à ce moment-là, c'est ouvert dans le village juste à côté d'une autre, à Mémac, une épicerie zéro déchet. Donc on a commencé à s'enseigner sur le zéro déchet, entre autres avec le livre « Objectif zéro déchet » qui a été écrit par une famille en fait qui est passée en zéro déchet. Et on a décidé en fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, de partir sur ce chemin-là du zéro déchet. Et donc là actuellement on a un potager avec un compost, donc on a dans nos poubelles, nous n'avons absolument plus de déchets organiques. Au niveau des courses, on fait essentiellement tout, donc à l'épicerie zéro déchet pour tout ce qui est les produits secs, au boucher, au boulanger du village, pour le reste, donc on ne va quasiment plus dans les supermarchés, à part effectivement pour quelques impératifs comme les bouteilles de lait et les yaourts, puisqu'on n'a pas encore de yaourtière. Les produits ménagers, on les fait nous-mêmes. Les produits cosmétiques, on commence à remplacer. On n'a quasiment plus aucun produit cosmétique du commerce. On est en train de quasiment tous les remplacer par des faits maison aussi. Actuellement, même au niveau des protections hygiéniques, c'est du lavable, les cotons, tout ça. Les dernières choses qu'on a vraiment qu'on a encore en jetable et qu'on n'a pas changé, c'est les couches des enfants. Parce qu'on a clairement, c'est une limite qu'on s'est fixé de laver les couches, c'est pas possible. Et en fait, on s'est rendu compte là sur 1 an qu'on avait quand même déjà bien divisé nos poubelles, déjà nos poubelles de déchets ménagers, là où on la sortait à peu près 2 fois par semaine, là on la sort plus que tous les 15 jours. Et quand on n'a pas les enfants, en fait, on la sort presque pas. On a effectivement du recyclé, mais on sait que le recyclé, c'est pas la solution, parce que le recyclage n'est pas du tout efficace en France. Donc là, notre objectif cette année, c'est d'encore plus réduire notre recyclé et d'avoir en recyclé uniquement des choses dont on est sûr qu'ils passeront en recyclé, c'est-à-dire du verre et du carton. Donc de réduire au maximum le plastique. On est en train aussi de remplacer tous nos...
Je crois qu'on vous appelle, Claire-Élise.
Oui, non, j'ai dans les bras. De remplacer tout le plastique en fait par du verre ou par de la céramique, donc des choses qui sont inertes. Et on évite effectivement, et puis après on est passé aussi maintenant en mode licornie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est essayer de baisser au max toutes nos consommations, donc de passer sur une consommation minimale. Donc par exemple, la chasse d'eau, on a un arrosoir, on récupère l'eau de la douche. Et actuellement, on ne tire quasiment plus la chasse d'eau, puisque l'eau de la toilette du matin, l'eau de chauffe de la douche, nous sert en fait à tirer la chasse d'eau.
Dites-moi.
Donc, on est toujours en transition, hein, on n'est pas encore tout à fait des licornes et des zéro déchet, mais de plus en plus, on avance. Et puis,
merci Clarisse. On va vous arrêter parce que le petit chou, là, visiblement, il est en train de prendre le pouvoir au téléphone sonne. Merci. Merci mille fois pour ce témoignage, Cyril Dion. Vous étiez un peu émerveillé en écoutant tout ça. Hein.
Oui, bah, c'est super, c'est sûr. Enfin. Le bouquin dont elle parle, en fait, c'est le bouquin de Jérémy Pichon et de sa compagne, où ils ont fait toute une année où ils ont marqué leur progression vers le zéro déchet, et où il explique effectivement que non seulement on fait beaucoup d'économies, mais qu'en plus c'est un jeu, quoi. Enfin, on le sent là, c'est-à-dire que ça devient un jeu à un moment de plus aller au supermarché, de plus acheter des emballages. Et ça a un impact énorme.
On va prendre Hervé qui patiente depuis très très longtemps au Standard de France Inter, et ce sera, je pense, notre dernier appel, parce que même si vous êtes très très nombreux, il faut quand même que on puisse vous répondre. Hervé, vous occupez d'un potager, c'est ça?
Oui, bonsoir Cyril et merci à France Inter. Je m'occupe d'un potager, oui, en mars 2016, la mairie de Saint-Rémy-les-Chevreux nous a donné un terrain de 1000 m² qui était une partie d'un ancien verger de 7000 m², et on a eu un objectif et un rêve, c'est d'y faire un verger patrimonial avec la population de la vallée. Voilà, donc nous avons planté 160 arbres avec 50 personnes en un week-end. On a construit les palissages ensemble, tous les gens ont appris, puisque personne ne savait. Et depuis, les gens ont appris à tailler les arbres, à greffer les arbres. On a maintenant 4 pépinières avec 350 porte-greffes que les habitants ont greffées. Et la mairie, très contente, nous donne 4000 m² supplémentaires. Et là, nous lançons un verger forêt, qui est notre deuxième objectif et notre deuxième rêve, puisque le premier a bien marché. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de réintroduire des variétés anciennes qui ont été perdues, de les faire goûter aux enfants, quand il y aura beaucoup de pommes, de les distribuer dans les écoles, ce sont les fruits des habitants, et surtout de transmettre un savoir-faire qui est en train de se perdre complètement, qui est celui de planter, de tailler, de greffer des arbres et de reprendre la main sur cette culture locale. Donc la vallée de l'Yvette s'y prête bien, puisqu'il y a énormément d'anciens vergers dans cette vallée. Donc le premier est lancé, il y en aura d'autres. Et ce qui est formidable, c'est au niveau social, c'est la réunion des gens de la vallée, des gens qui se connaissaient pas, des gens de la ville, des gens de villes voisines, les élèves du lycée de la vallée qui sont venus, qui ont aussi, les lycéens, appris à greffer, qui ont fait un verger dans leur école. Et tous ces gens-là, ensemble, le dimanche matin, depuis le 16 mars 2016, se retrouvent pour faire avancer ce verger. Donc voilà une initiative qui est passée du rêve à la réalité, et on a lancé un autre rêve, et nous sommes aujourd'hui plus des faiseurs d'arbres et de fruits, mais des faiseurs de vergers pour la vallée.
Merci voilà. Hervé, ce soir on ne vous arrête pas, hein, les auditeurs et les auditrices de France Inter, tellement vous avez de choses à nous dire. Isabelle Delannoy, ça doit vous rassurer d'entendre tout ça.
Mais en fait, dès que ça se produit, dès qu'on arrive à créer ça, on a toujours ce même effet. En général, ça prend au bout de 2 ans, le système est déjà stable. C'est très rapide. Là, on a 2 ans. Le lien social, la végétation, et notamment la végétation patrimoniale et utile, provoque un lien social, mais des effets sur la santé physique, psychique, nutritionnelle, extrêmement importante. Au fur et à mesure aussi une redynamisation économique. Par exemple, on parlait de la cantine, ça peut devenir aussi des coopératives et qui fassent de la valorisation économique en filière. C'est-à-dire que il faut enclencher la dynamique. Et à partir de ce moment-là, c'est tout un champ qui s'ouvre. Et ce qu'on voit, on entend bien, c'est cette autre dimension, cet autre mode de vie. C'est aussi ce retour au patrimoine en fait de l'humanité, de savoir-faire, que de nouveau on se réapproprie, parce qu'on passe de la surconsommation à la surcréation. Et c'est ça qui est formidable.
Alors tous les deux, dans vos écrits, vous insistez évidemment sur la question démocratique, et on en a parlé. Vous insistez aussi sur la question monétaire. Pour quelle raison, Cyril Dion?
Parce qu'en réalité, quand on regarde et qu'on discute avec des économistes, sur la raison de cette frénésie de croissance, notamment on a interviewé un économiste qui s'appelle Bernard Liétard, qui est un des spécialistes de la monnaie, qui est un des créateurs de l'écu et plus tard de l'euro, il nous explique que comme l'argent est majoritairement créé par les banques privées à travers la dette, c'est-à-dire que dans la zone euro, 85% de l'argent qu'on crée, il est créé en fait quand on va faire des crédits à la banque. Ça nous oblige mécaniquement à continuer à refaire des crédits et des crédits et des crédits et des crédits pour pouvoir avoir suffisamment de masse monétaire en circulation. Donc ça veut dire quoi? Qu'un, on est coincé à avoir de la croissance, parce que sinon, en fait, si on arrête de faire des crédits, si on arrête d'avoir de la croissance surtout, on se retrouve à faire banqueroute. Et parallèlement à ça, on se retrouve avec des inégalités énormes, puisque le principe de l'intérêt, c'est quelqu'un qui a déjà trop d'argent, qui prête à quelqu'un qui en a pas assez, qui va lui rendre encore plus d'argent qu'il en avait avant. Et des situations comme celles qu'on a évoquées pendant votre journal, c'est-à-dire des États qui sont de plus en plus endettés, des villes qui sont de plus endettées et qui n'ont pas la capacité d'investir dans les choses qui sont réellement importantes. Ça fait aussi des gens qui ne peuvent pas faire le métier qu'ils aiment, parce qu'ils sont obligés d'aller travailler pour rembourser les crédits. Donc tout ça nous coince, c'est vraiment une structure qui coince et qui corsette la société.
Et c'est pour ça que vous avez appelé votre livre et que vous avez théorisé l'économie symbiotique, Isabelle Delannoy?
C'est-à-dire que, en effet, on assiste, tout ce qu'on voit là, c'est une autre logique économique. Ça a besoin de la diversité. Par exemple, la diversité des poires, des pommes, des prunes, etc., dans le verger pour alimenter toute l'année et puis pour garder aussi un équilibre sur que le verger soit stable et devienne au fur et à mesure autonome. Ça demande, en fait, c'est très efficace. Et ça coûte pas cher, parce que on rentre en collaboration directe. C'est ce que permet le quartier, c'est ce que permettent aussi les réseaux sociaux, et on supprime les intermédiaires. Et c'est pour ça que ces modèles deviennent rentables. Et ensuite, quand on voit le zéro déchet, par exemple, aujourd'hui, on le fait au niveau des citoyens. Mais ce qu'on voit arriver, c'est au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'on a des modes industriels qui vont vers le zéro déchet, et c'est là où toutes les contraintes, comme l'arrosoir, etc., je suis sûre qu'il y a 90% des auditeurs qui ne se voient pas récupérer l'eau de leur douche ou de leur baignoire pour ensuite le mettre dans la chasse d'eau. Mais lorsque l'immeuble sera pensé comme ça, l'effet sera le même et vous ne verrez rien.
Et il y a des super exemples dans votre livre, ça s'appelle L'économie symbiotique, c'est aux éditions Actes Sud, domaine du possible, toujours, c'est à lire vraiment. Il y a des choses tout à fait rassurantes qui font rêver pour la suite des événements. La suite des événements, Cyril Dion, qu'est-ce qu'on dit en conclusion de ces deux heures d'émission avec tous ces auditeurs et ces auditrices qui appellent au standard de France Inter et qui ont envie de se réunir et puis peut-être de créer ce gros lobby citoyen que vous appelez de vos voeux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent?
Non,
vous écrivent?
Non mais on est en train d'essayer de travailler à ça là. Moi j'ai eu au téléphone un certain nombre de dirigeants d'ONG, de personnes qui justement ont des capacités d'organisation, parce qu'il s'agit d'organiser tout ça maintenant. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est quelle énergie. Enfin, quand on entend parler ces gens, ils n'ont pas l'air malheureux, au contraire. Mais oui, mais on parle toujours de l'écologie comme un truc punitif, privatif, alors que quand on écoute les gens qui ont changé leur mode de vie, au contraire, ils ont l'air d'être profondément heureux, d'avoir trouvé du sens, d'être utile, de faire des trucs qui leur font du bien. Donc j'ai envie aussi qu'on retienne cette énergie-là.
Voilà, et on vous reviendrait pour nous en parler, on verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Un grand merci Cyril Dion, petit manuel de la résistance contemporaine, sorte de manuel guide mode d'emploi de tout ce qui va se passer. Merci mille fois d'avoir participé
merci
à ces deux heures d'émission, merci à Isabelle Delannoy, merci à vous tous qui avez appelé, à ceux qui ont patienté et qui ne sont pas passés à l'antenne, pardon. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, merci à Simon Arestat, Thomas Lehété, à la réalisation Marie-Annick Rimbaud, à la technique Henri Bérec, Théo Gomard, Ronan Mahé. Merci aux standardistes de l'émission.